Bonjour à tous. C'est le premier pays durement touché par la crise sanitaire à reconfiner totalement. Israël annonce un reconfinement de 3 semaines pour sa population. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou l'a annoncé hier soir à la télévision, évoquant un personnel médical débordé dans les hôpitaux. Cette mesure prendra effet vendredi, à la veille du nouvel an juif, en pleine augmentation des cas de contamination en Israël. Pendant ce temps, en Autriche, la seconde vague devient une réalité. Le terme a été employé officiellement par le chancelier Sébastien Kurz hier soir. Il appelle les Autrichiens à respecter les mesures dites antivirus et à réduire au maximum les contacts. Notez aussi qu'en Grande-Bretagne, ces mesures sont de plus en plus strictes. Interdiction à partir d'aujourd'hui de se rassembler à plus de 6 personnes en extérieur comme en intérieur. Nous irons à Londres dans une demi-heure. En France, les préfets des Bouches-du-Rhône et de Gironde doivent présenter aujourd'hui leur plan d'action contre le Covid-19. Le Premier ministre le leur avait demandé vendredi dernier. La situation est en fait particulièrement préoccupante dans ces deux départements. En Gironde, par exemple, plus de 80 foyers épidémiques ont été recensés. C'est 1/10 du nombre total de clusters en France. Depuis le printemps, par ailleurs, sachez que 30 900 personnes sont mortes dans le pays du Covid-19. 6 de ces décès ont été enregistrés hier, dont un résident d'un EHPAD de l'Aveyron. C'est le 5e mort en quelques jours dans cet établissement. 6 décès enregistrés donc de ces derniers jours. Le maire de Sévérac, où se trouve cet EHPAD, réclame de l'aide, notamment pour les soignants qui ne sont pas assez nombreux. Dans ce contexte, les évaluations pour les élèves de CP, de CE1 et de 6e partout en France débutent aujourd'hui dans les établissements scolaires. De nombreux enseignants dénoncent ces évaluations. Ils estiment notamment qu'elles arrivent trop tôt dans l'année au vu du retard accumulé lors du confinement en fin d'année dernière par les élèves. Parole d'un représentant syndical dans le journal de 6h30.
Observation, hypothèse, conclusion sur France Culture, la méthode scientifique de Nicolas Martin.
Les néonicotinoïdes viennent d'être réautorisés en France, mais pourquoi sont-ils si dangereux? La science s'est-elle vendue au secteur privé? Comment se sont formées les toutes premières galaxies? Les ondes terahertz sont-elles les ondes du futur? Et peut-on décemment dire qu'Isaac Asimov est le père de la science-fiction moderne? Autant de questions auxquelles nous répondrons cette semaine méthodiquement.
La méthode scientifique, du lundi au vendredi à 16h sur France Culture et sur franceculture.fr. Affaire culturelle sur France Culture, Arnaud Laporte.
Affaire culturelle s'engage pour la culture et la création, une émission en 3 parties, un grand entretien avec un artiste, affaire en cours, un objet culturel qui se trouve relié à une question de société, affaire à suivre, des nouvelles du secteur culturel dans les régions et à l'étranger.
Affaire culturelle, du lundi au vendredi à 19h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture, avant le réveil culturel de Toufik Hakem dans un instant. C'est le monde vivant de Bruno David qui nous éveille avec l'ornithorynque ce matin.
La pièce australienne de Vincennes que je tiens dans ma main représente un petit canard nageant dans l'onde d'une rivière. Mais en y regardant de plus près, ce canard est étrange. Il n'a pas d'ailes, mais des pattes munies de griffes. Serait-ce une chimère, un de ces êtres hybrides? Non, vous aurez compris qu'il s'agit du mammifère le plus bizarre qui soit, l'ornithorynque, en latin Ornithorhynchus anatinus, le nom de genre évoquant un bec d'oiseau et le nom d'espèce faisant référence au canard. Lorsqu'en 1798, un spécimen de cet animal étrange débarque à Londres, le zoologiste George Kersley Shaw et l'anatomiste Robert Knox croient à une chimère fabriquée de toutes pièces. Il faut dire que les scientifiques du XVIIIe siècle étaient friands de nouvelles découvertes et que leur exploration de la biodiversité n'était pas exempte de surprises. Certains l'avaient bien compris et vendaient très cher des chimères fabriquées à partir de plusieurs espèces en les faisant passer pour des animaux réels. Nos naturalistes londoniens avaient donc d'excellentes raisons d'avoir des doutes et Knox crut que des petits plaisantins avaient cousu un bec de canard sur une sorte de castor. Il chercha les coutures qui auraient révélé la supercherie. Non, l'animal semblait bien réel. Mais il n'entrait dans aucune des cases de la classification de l'époque. Imaginez une sorte de petit castor, muni de sa queue de castor et de ses pattes palmées réglementaires, mais avec une tête aplatie et un bec de canard sans oreilles visibles. Mais on n'avait encore rien vu. Bien qu'il ait des poils et à l'aide de ses petits, et soit donc incontestablement un mammifère, l'ornithorynque pond des œufs. À l'époque, on ne connaissait pas de mammifères ovipares, si bien que l'animal apparaissait comme une vraie mosaïque, le bec et les œufs des oiseaux, les poils et le lait des mammifères. Bref, une vraie chimère, et qui plus est aquatique. Depuis, 4 autres mammifères ovipares ont été découverts. Ensemble, ils sont classés dans le groupe des monotrèmes, dont le lignage est séparé de celui des autres mammifères depuis le Jurassique, il y a 180 millions d'années. Aujourd'hui encore, les ornithorynques continuent de nous surprendre, cette fois avec leurs protéines. Les protéines sont à l'image d'un chapelet, replié sur lui-même d'une manière très précise. Ce repliement est la base de l'organisation en 3 dimensions des protéines qui leur confèrent des propriétés spécifiques. À travers tout le vivant, 2200 modes de repliement ont été répertoriés, pas plus. Depuis quelques décennies, peu de nouveautés sur le sujet. Lorsqu'en 2018, on en découvrit une. Où ça ? Dans le lait de l'ornithorynque, comme s'il n'était déjà pas assez bizarre. La femelle ornithorynque n'a pas de téton et son lait suinte des champs mammaires directement dans les poils où il risque de se contaminer. Mais comme sa protéine est bizarrement repliée, les bactéries ne peuvent pas la dégrader et le petit peut laper sans danger. Le téton n'existe pas, mais les protéines bizarres, oui. Le vivant n'a pas fini de nous surprendre.
Allez, on s'élève. 6h, 7h, les petits matins de France Culture. Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel. Aujourd'hui, en compagnie de la reine du roman noir français, Anne-Laure Kerr. Anne-Laure Kerr, qui est sur tous les fronts depuis le succès de son précédent roman La Daronne, édité en 2017 et qui a été adapté au cinéma. D'ailleurs, on peut voir le film en ce moment avec Isabelle Huppert dans le rôle titre. Et depuis le succès de La Daronne, Anne-Laure Kerr est très sollicitée. Elle est par exemple la scénariste d'une bande dessinée qui est sortie il y a à peine 2 mois, Mal au sol Beach, aux éditions La Veltinière. Et son dernier roman, Richesse oblige, publié en mars, c'est-à-dire en plein confinement, mérite qu'on y revienne. Au 19e siècle, les riches créaient des fortunes et achetaient même des pauvres afin de remplacer leurs fils pour qu'ils ne se fassent pas tuer à la guerre. À partir de là, Anne-Laure Kerr campe un personnage et une histoire, celle toute singulière de Blanche de Rigny. Anne-Laure Kerr est l'invitée du Réveil culturel aujourd'hui.
Le Réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Anne-Laure Kerr.
Bonjour.
Avocate pénaliste, avant d'être romancière, vous avez déjà quelques romans, vous aviez déjà quelques romans et même un court-métrage derrière vous quand vous publiez en 2017 La Daronne, un succès en librairie qui va élargir considérablement le cercle de vos lecteurs et va vous ramener des prix et même des propositions d'adaptation au cinéma. Mais là, on parle de votre tout dernier roman, toujours édité chez Métellier. Et on va parler, si vous voulez bien, d'abord de Blanche, puisque c'est elle, c'est le prénom de votre héroïne. C'est une jeune fille qui est née sur une île de la côte bretonne, pas du tout sous une bonne étoile. Mais cette fille de pêcheur va découvrir qu'elle est peut-être une potentielle héritière d'une très riche famille. D'où l'enquête généalogique qui va nous faire remonter 150 ans en arrière, et jusqu'à la guerre de 1870. Et d'une méthode qui, à l'époque, était très répandue chez les bourgeois et les propriétaires terriens, c'est-à-dire acheter des pauvres pour qu'ils aillent à la guerre à la place de leurs fils. Je dois avouer que j'ai découvert cet épisode en lisant votre roman, Anne-Laure Kerr. Alors, mais parlons d'abord de Blanche de Rigny. Elle est fille de pêcheur, on l'a dit, elle est issue d'un milieu modeste, mais en plus, elle est handicapée.
Oui, bah ça change. Elle est anticapitaliste, femme, écolo et handicapée comme héroïne, ça envoie le bois, non ? C'est pas fréquent.
Et
oui,
pour
elle est
clore
handicapée.
La liste, elle est chieuse historique.
Tout elle ça. Est chieuse historique.
Entre guillemets, qu'est-ce que vous appelez par chieuse historique ?
Une chieuse historique, c'est dans un univers, dans une petite communauté, comme une île par exemple, pour bien connaître la vie sur les îles, puisque c'est un endroit de réclusion où j'ai été pendant 10 ans pour écrire. Il y en a toujours un par génération qui fait chier tout le monde. Et quand il y a quelque chose qui se passe,
on sait d'où ça vient.
On dit, mais ça doit être machin. C'est évident, ça ne peut être que lui ou elle. Et donc la chieuse historique, c'est elle. Et d'ailleurs, elle a eu un gros accident de voiture pour avoir une fois de plus, fait un truc qui consiste à conduire des voitures bourrées sur l'île parce que les clés pendent sur le contact des voitures et que tout le monde peut s'amuser. Et c'est vrai que les gamins des îles, même à 8-9 ans, piquent les voitures pour aller faire un tour. Et donc, elle a fait ça, elle a terminé dans le vide.
Et cette Blanche de Rigny, elle est notre contemporaine. Hein. Je dis ça parce que votre roman va nous ouvrir une autre piste, celle de peut-être son aïeul. Et là, on est dans une autre France, un autre contexte, même si toute la subtilité de richesse oblige, c'est de nous rappeler que les choses n'ont pas tant évolué que ça.
C'était d'abord mon roman est arrivé en deux temps. Un jour j'avais lu dans un livre d'Octave Mirbeau qui est Sébastien Roch. D'ailleurs je reprends ce passage dans mon roman. C'est un garçon qui est arrivé des malheurs et il est dans une petite ville et il voit son père. Enfin il entend son père derrière la porte de l'hôtel de ville avec un maquignon d'homme. En train d'essayer d'acheter un homme et de négocier sou par sou pour le payer le moins possible. Et il dit cet homme je l'aime, il va mourir à ma place, je suis trop lâche pour y aller, j'y vais, j'arrête ce marchandage immonde, et puis il n'y va pas. Et je me suis dit c'est quoi acheter un homme? Et tout d'un coup ça m'a vachement intéressée, donc j'ai commencé à chercher. Et ce qui est hallucinant, c'est que c'est une institution qui a vraiment concerné toute la France. Pendant quasiment 100 ans, entre 1812 et 1871, les bourgeois, les propriétaires terriens, les nobles achetaient des pauvres pour remplacer leurs fils qui tombaient au sort. C'est-à-dire, il y avait une conscription par tirage au sort et quand on tirait un mauvais numéro, eh bien, on devait partir et on avait le droit d'acheter un homme pour ne pas partir et que l'homme parte à sa place. Voilà.
Pourquoi on ne parle pas de ça dans les manuels d'histoire? Est-ce que c'est parce que la Grande Guerre qui va advenir après va prendre toute la place ou...
Je pense que c'est ça parce que pour ce qui est de cette époque-là, la guerre de 70, on a quelques bribes quand même dans la tête. Gambetta qui part en ballon, le siège de Paris, les gens qui mangent des éléphants, des petites histoires comme ça, des anecdotes. Mais c'est vrai que la grosse boucherie de la guerre de 14 a complètement éclipsé cette guerre. Et en plus de ça, on ne l'a pas appris à l'école. Et quand j'ai appris que justement, quand la Prusse a battu l'Autriche à Sadova en 1869 et qu'elle a gagné en une bataille et qu'elle fonçait sur la France comme une locomotive, le cours du pauvre s'est mis à s'envoler. Et ce paradoxe, à savoir que le cours du pauvre s'envole et qu'un pauvre coûte de plus en plus cher et qu'on trouve nulle part des pauvres à acheter, ça m'a paru tellement drôle, comme je suis quand même extrêmement mauvais esprit, ça m'a paru tellement drôle que j'ai voulu explorer cette veine. Et j'ai découvert des trucs, mais incroyables, quoi. Et ce qui est étonnant, c'est vrai que la France a totalement oublié. Les gens, chacun dans sa famille, a soit une personne qui s'est vendue, soit une personne qui en a acheté une autre.
Alors du coup, vous vous éloignez des codes classiques du roman noir, parce que l'enquête en question, ça va être l'enquête de Blanche de Rigny, qui va se demander si elle ne peut pas être une héritière potentielle de cet Auguste de Rigny, dont on suit par ailleurs, parallèlement, les aventures en 1870.
Auguste de Rigny, c'est un gentil garçon complètement à la ramasse, qui fait partie de ces jeunes bourgeois qui sont perdus dans l'aventure communaliste. Mais en tous les cas, elle fait son enquête généalogique, mais elle ne fait pas que ça.
Et puis tout d'abord, elle a le droit de faire cette enquête, parce que quand on s'appelle Blanche de Rigny et qu'on n'a absolument pas le physique de son nom, on est en droit d'enquêter, n'est-ce pas, Annie Harker?
Oui, mais c'est surtout dans des petites communautés, quand on est accepté dans une communauté, par exemple sur une île. Si vous êtes accepté, les gens qui vivent sur les îles sont toujours prompts à dire « lui, c'est un étranger » alors qu'il est là depuis 4 générations. Il y a 4-5 familles sur les îles et de la mer d'Iroise et tout le monde porte à peu près le même nom. Et elle s'appelle de Rigny, pourtant, elle est vraiment endémique. Donc elle s'est jamais posé la question pourquoi, et puis sa famille a toujours évacué ça en disant à l'époque où le chemin de fer est arrivé jusqu'en Bretagne, il y a des tas de Bretonnes qui sont parties chercher du travail à Paris, elle s'est fait engrosser, elle est revenue avec un gamin, quelqu'un a reconnu le gamin, voilà, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça.
Avec une particule.
Voilà. Et puis mon héroïne Blanche se dit c'est quand même très curieux, elle connaît bien la littérature du 19e et pour avoir lu Pobouille, elle sait que jamais un noble aurait transgressé l'ordre social en reconnaissant le gamin d'une gueuse. C'est juste impossible. Donc il doit y avoir quelque chose de plus compliqué, parce que c'est juste impossible qu'une pauvre bretonne qui arrive à Paris pour servir dans une famille, alors qu'à l'époque, quand le fils de famille engrossait la bonne, on la jetait dehors et elle accouchait sous les ponts. C'est pas possible que tout d'un coup, il y en a un qui s'appelle de Rigny. Donc voilà comment commence l'interrogation.
Et donc,
recherche.
Cette enquête qui va nous mener à une autre France, celle de 1870, et celle d'un certain Auguste de Rigny.
Et quand elle regarde par exemple les photos de son ancêtre, elle voit une femme très prospère qui pose devant son restaurant crêperie qu'elle a ouvert en 1872 après la guerre, qui s'appelle À la mouette gourmande. Et elle a l'air d'une commerçante prospère. Comment elle a pu devenir une commerçante prospère? Tout ça sont des questions. Et donc c'est pour ça qu'elle fait une recherche et elle tombe sur des choses incroyables.
Mais elle a quand même cette arrière-pensée que peut-être elle pourrait devenir riche.
Tout à fait, parce que l'arbre généalogique, comme tous les arbres, c'est un petit arbre tordu avec pas beaucoup de branches, hein, qui a poussé sur un sol ingrat. Donc il n'y a pas beaucoup de descendants.
On laissera les auditeurs, lecteurs, faire le lien entre l'histoire contemporaine de Blanche de Rigny, son enquête généalogique et l'autre personnage de votre roman, Auguste de Rigny. Mais parlez-nous, Anne Lorquer, de cette France-là de 1870 et de ce personnage incroyable. Il l'est, à bien des égards.
C'est ce qui m'intéressait beaucoup, c'est de reprendre des dialogues familiaux avec la langue d'autrefois. Mais le contenu des dialogues, en fait, est extrêmement actuel. Et ces dialogues, je les ai pas inventés, je les ai trouvés en lisant. Enfin, c'est toute la masse de choses que j'ai lues pendant 30 ans qui me les a inspirées. C'est à l'époque, en 1870, donc avant la guerre de 14, les pauvres étaient envisagés par les bourgeois et par les riches en termes de race. C'est-à-dire, ils étaient des ivrognes, des bêtes, des gens qui frappaient leurs femmes, etc. Mais on ne disait pas que c'était la pression économique atroce qui pesait sur eux, qui les rendait comme ça. Ils étaient comme ça parce que c'est comme ça. C'était dans leur sang. Voilà. Et même à l'époque, par exemple, je prends un écrivain comme Henri Bauer, par exemple, qui est le fils non reconnu d'Alexandre Dumas, pas reconnu à l'état civil, mais il a toujours dit que c'était son fils. C'était un romancier, et c'était un romancier qui a été déporté en Nouvelle-Calédonie, vraiment très de gauche. Quand on lit ce qu'il écrit, il dit toujours, bon, donc il a des termes extrêmement pro-communes de Paris, mais d'un autre côté, vous lisez, pendant qu'il va à une réunion de toutes ces réunions pour faire la révolution communaliste, quand il va là-bas, il dit « Le cocher m'a préparé mes chevaux, ma bonne m'a fait mon linge, etc. » C'est-à-dire que le personnel qui le sert, même si c'est une personne qui a des idées extrêmement ouvertes et progressistes, quand même parle comme quelque chose de parfaitement normal de tous les gens qui le servent. C'est ça qui est étonnant. C'est un peu comme en Amérique du Sud aujourd'hui. Vous avez des gens qui sont de gauche, avec des idées de gauche, mais ils ont la nana qui s'occupe de leur cuisine, mais ils ont celle qui s'occupe de leur gosse, et ils ont le gardien qui passe la tondeuse à gazon. Mais c'est quelque chose de parfaitement intégré socialement. C'est ça qui est dingue. Et Auguste est de cela, c'est-à-dire qu'il a de grandes idées révolutionnaires, mais d'un autre côté, partir à la guerre, c'est juste inenvisageable.
Donc, on revient à ce drôle de trafic. Enfin, quand je dis trafic, pas du tout. Tout était organisé pour que les riches puissent acheter des pauvres et les envoyer mourir à la guerre à leur place. Il y avait des rabatteurs, il y avait une administration pour ça, il y avait même, j'allais dire, la bourse de ces pauvres, parce qu'à un certain moment, il n'y en avait plus dans les villages des pauvres qui pouvaient aller mourir à la place des riches.
Bah, d'abord, ça a été, d'abord, on achetait son homme, soi-même. Après, il y a eu tellement de trafic que la législation a changé. Quand un garçon naissait de la bourgeoisie, les parents l'assuraient. Il y avait une mutualisation du risque, c'est l'ancêtre des compagnies d'assurance, faut quand même le voir, hein. Il y avait une mutualisation des risques, et au moment où il tirait au sort, s'il tirait un mauvais numéro, la compagnie d'assurance payait remplaçant. Donc, il y a eu ces compagnies d'assurance, et il y avait les maquignons. Et puis, à un moment, ça a été si terrible que, en fait, on payait l'État pour qu'il trouve un remplaçant à votre place quand vous tiriez un mauvais numéro. Et puis, en 1869, les pères de famille ont fait une telle pression sur l'Assemblée nationale qu'on est revenu à l'ancien système, c'est-à-dire que chacun devait trouver son pauvre. Il y avait des journaux d'annonces.
Trafic humain institutionnalisé.
Absolument, ça s'appelait, c'était des trafiquants de chair humaine. Enfin, à l'Assemblée nationale, il y avait que vraiment les partis de gauche qui étaient les seuls à parler de trafic de chair humaine. Mais sinon, la France était extrêmement libérale. C'était l'Empire et le triomphe de la bourgeoisie. Et tout le monde soutenait le remplacement militaire. Sauf les aristocrates qui disaient que la France allait dans le mur parce que vraiment il fallait des militaires à la France parce que la conscription était générale en Prusse et que nous on allait avec nos hommes qui étaient des soudards achetés à droite à gauche par les familles bourgeoises, c'était une armée catastrophique. Donc ils disaient nous allons à la défaite.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
À bientôt, car la sainte espérance emplit nos cœurs en te disant adieu. En attendant l'heure de délivrance pour l'avenir, nous allons prier Dieu. Nos monuments où flottent leurs bannières semble porter le deuil de ton drapeau. France, entends-tu la dernière prière de tes enfants couchés dans leur tombeau? N'honorez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu germaniser la plaine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais.
Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. C'est une chanson de Gaston Villemer et Hippolyte Nazé pour les paroles et de Ben Tailloux pour la musique, écrite en 1871 au lendemain de la guerre franco-allemande qui s'est conclue d'ailleurs par l'annexion de l'Alsace et la Lorraine au nouvel empire allemand. C'est une période qui est très présente à travers un des deux personnages principaux du dernier roman noir de Anne-Laure Kerr, Richesse oblige. L'autre période, c'est la période d'aujourd'hui, et on aura compris qu'avec avec ce stratagème, vous allez dresser un parallèle entre deux époques pourtant très différentes.
Aujourd'hui, si vous n'épousez, si vous avez juste votre salaire, pas d'héritage, et si vous n'épousez pas une femme riche, eh bien vous n'avez rien. Et c'est extrêmement difficile d'avoir quelque chose, parce que même si on a un bon salaire, imaginons, allez, 2 500 à 3 000 euros par mois, 1 200, 1 300 euros sont consacrés à un loyer et le reste à manger. Il ne reste plus rien pour arriver à accéder à la propriété, accéder à autre chose. C'est ça le problème. C'est qu'on est exactement au même niveau qu'à cette époque-là. C'est-à-dire que tout ce que vous gagnez est consacré à dépenser pour vivre, mais vous ne pouvez rien mettre de côté, vous ne pouvez pas accéder à autre chose que votre condition.
Donc on est revenu à la France des gueux du 19e siècle face aux nantis.
On va y aller tout doucement, parce que entre des écoles qui ne fonctionnent plus, des hôpitaux à l'agonie, une sécurité sociale à l'agonie, tous les services publics à l'agonie, il y a un moment où une généralisation des paiements par carte bancaire, ça a l'air de rien, mais il y a des gens qui peuvent pas ouvrir des comptes en France parce qu'ils sont trop pauvres. Tout ça fait que, oui, la France est en train de se couper progressivement en deux. Il y a ceux qui tirent la tête pour la maintenir hors de l'eau et puis il y a tous les autres qui coulent, quoi. Plus je vieillis, enfin, normalement, en vieillissant, les gens s'embourgeoisent et deviennent de plus en plus de droite et égoïstes.
Alors, pour vous, c'est le contraire, hein. Richesse oblige est votre livre le plus politique,
pour
le
moi,
plus militant.
Eh ben, plus ça va, plus je deviens de gauche, en fait. C'est très, très étonnant comme je dois pas être la seule, en fait. Gauche et écolo. Ce qu'on appelle la course du rat, c'est-à-dire essayer d'arriver au fromage le premier, tout ça. Pour moi, ça n'a plus aucune importance aujourd'hui. Compte tenu de ce qu'on laisse à nos enfants, qui est épouvantablement triste, en fait. Moi, j'ai des enfants qui sont en âge bientôt d'avoir eux-mêmes des enfants. Et c'est triste de se dire que ces enfants se posent vraiment la question de savoir s'ils auront une descendance, parce que ils n'ont pas envie de souffrir de la peur de leurs enfants à eux qui n'arrivent ni à manger, ni à vivre, quoi. Donc, c'est une époque extrêmement sinistre où je trouve que la question, elle n'est plus du tout à l'argent, à la course, à la propriété. Tout ça n'a plus aucune importance, en fait. Et si les êtres humains ne se mettent pas aujourd'hui à être solidaires, on n'aura plus que des pierres à manger dans très peu de temps.
Et comment vous regardez tout ce qui se passe en France et dans le monde aujourd'hui ?
Pour moi, c'est le soubresaut de la fin. Enfin, c'est le début de la fin qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens ont extrêmement peur, parce que c'est la première fois depuis l'homme préhistorique, en fait, que l'être humain s'envisage demain comme plus sombre qu'aujourd'hui. Ce n'est jamais arrivé dans l'humanité. Dans l'humanité, on s'est toujours construit avec le progrès, le plus, le nouveau, le mieux. Mais on sait que ça n'est pas possible. Quand on reprend le 19e siècle, il y a eu la révolution industrielle. La révolution industrielle a permis également aux gens de s'enrichir. Mais comme la terre est épuisée, il n'y aura plus de révolution industrielle. Et plus, ça n'est plus possible, parce que personne ne n'avale l'oxymore du développement durable. C'est absurde. Tout le monde sait que c'est du mensonge. Le développement, quand vous vous dites « oui, bah, on va rouler avec de l'électrique », les batteries sont encore plus polluantes que le reste. Donc tout ça, il n'y a plus de solution. Et ça, c'est la première fois que l'humanité est confrontée à ce mur-là.
Il y a quand même quelque chose de positif dans votre livre, c'est le personnage de Blanche. Ce portrait de Blanche que vous dressez, il est plutôt positif, progressiste, Adèle Orker.
Oui, ben c'est ce que j'aimerais faire si elle exprime exactement mes désirs, si j'héritais de millions et de millions et de millions d'euros, parce que en fait c'est une famille très très riche dont elle porte le nom. Bien mais sûr. Riche comme c'est 1%, ces riches là quoi. Pouvoir changer le cours des choses comme l'ont fait pendant des siècles les pollueurs, les lobbyistes, pour faire voter des lois à la fois écocide, liberticide, on peut faire exactement la même chose avec de l'argent, mais dans l'autre sens.
Voilà, ça c'est le message positif, toi.
Ouais. Oui, bien sûr, mais qui va le faire, quoi ? Bah, il faut que j'hérite, mais de qui ?
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Merci Anne Lorker. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Richesse oblige, et c'est édité par Métellier. On se retrouve nous demain à la même heure. Bonne matinée sur France Culture.
Culture, l'esprit d'ouverture.
Avez-vous compris Tenet ? Explication avec Adèle Vendrette cette semaine sur France Culture.
Mais que se passe-t-il dans le cerveau de Christopher Nolan ? Nous partons à la rencontre de quatre films qui soulèvent quatre questions décisives. Peut-on arrêter le temps ? Comment braquer l'inconscient ? Batman était-il réac ? Et peut-on voyager dans les trous noirs ?
Les chemins de la philosophie, du lundi au jeudi à 10h sur France Culture et sur franceculture.fr. LSD fait sa rentrée à la fac, Perrine Kervran.
On ne peut plus rien dire. C'est ce dont se plaignent certains universitaires et intellectuels qui se sentent attaqués dans leur liberté à exprimer des idées. Alors que d'autres pensent au contraire qu'on peut enfin parler de tout. Mais comment les avis peuvent-ils être aussi diamétralement opposés ? Cette semaine, LSD scrute la façon dont les débats de société sont entrés à l'université.
La série documentaire, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Pas plus de 6 personnes dans une même pièce. La Grande-Bretagne prend des mesures plus strictes à partir d'aujourd'hui pour lutter contre le Covid-19. Ces nouvelles règles sont-elles comprises par les habitants? Nous irons à Londres dans un instant, alors qu'Israël annonce de son côté un reconfinement total du pays. Direction ensuite l'Italie, où c'est jour de rentrée pour la plupart des élèves. Il manque pourtant cruellement de professeurs, vous l'entendrez. À suivre aussi l'incompréhension des syndicats d'enseignants en France à l'aube d'évaluation en CP, CE1 et 6e, ils ne sont pas prêts, disent-ils. Et puis, la politique du Japon va-t-elle changer avec son nouveau Premier ministre? Réponse en fin d'édition, Yoshihide Suga doit être investi aujourd'hui par son parti. Boris Johnson se bat donc contre les rassemblements sociaux et privés. Le Premier ministre britannique en fait même une règle à partir d'aujourd'hui. Il interdit de se réunir outre-Manche à plus de 6 personnes, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Ce sera très certainement le cas à partir donc d'aujourd'hui et jusqu'à Noël. Qu'en pensent les habitants? Notre correspondante Laura Calmus a posé la question à des clients d'un pub londonien et les avis sont partagés sur la question. Voici son reportage.
Dans ce pub branché du nord de Londres, la bière coule à flot et toutes les tables sont prises. Au fond de la salle, 8 étudiants décidés à profiter de ce dernier week-end avant la règle des 6.
On va boire quelques verres de plus ce soir.
On ne pourra plus sortir tous ensemble. On va devoir se séparer, faire des groupes. C'est un peu dommage. Bien que contraignante, tous ont décidé de respecter cette nouvelle mesure. Le nombre augmente, on doit faire quelque chose.
C'est comme ça, il va falloir suivre les règles.
Car dès aujourd'hui, les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits, que ce soit à la maison, au parc, au pub ou au restaurant, avec une amende allant de 100 à 3500 euros pour toute personne qui ne respecterait pas cette règle. Mais pour Anna, il y a un manque de cohérence du gouvernement qui ne compte pas généraliser le télétravail ni fermer les écoles. On a le droit d'être plus de 6 au travail, ou quand on est à côté d'inconnus dans le bus ou au supermarché, mais pas avec sa famille ou ses amis. Ça n'a pas de sens, c'est juste pour préserver l'économie. Ces derniers jours, le nombre de personnes testées positives au coronavirus a dépassé la barre des 3000. Cela n'était pas arrivé depuis mai dernier. Au Royaume-Uni, plus de 41 600 personnes sont décédées du coronavirus. C'est le bilan le plus lourd d'Europe.
C'était Laura Calmus, notre correspondante à Londres. Autre pays qui s'inquiète en regardant les chiffres de contamination, il s'agit d'Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou y annonce le reconfinement total de la population à partir de vendredi et pour une durée de 3 semaines. La période coïncide avec un temps fort du calendrier hébraïque. Ce pays-là avait été le premier touché en Europe. Les enfants y font aujourd'hui leur rentrée scolaire. En Italie, la plupart des régions organisent cette rentrée aujourd'hui après plus de 6 mois d'interruption. Elle est forcément attendue, mais tout n'est pas prêt. Il manque dans les écoles des pupitres, des livres et surtout des enseignants, Bruce de Galzin.
Il devait y avoir 84 000 enseignants supplémentaires pour cette rentrée, promettait le gouvernement. Mais selon les syndicats, à peine un tiers a été recruté. Mario Galbani, professeur de mathématiques à Rome.
Plusieurs concours sont déjà terminés, donc il n'était pas possible de candidater. Et puis, beaucoup d'enseignants précaires n'acceptent pas de changer de région pendant 5 ans, alors qu'ils ont une famille.
Le gouvernement assure que les enseignants seront nommés dans les temps, mais le problème ne date pas d'hier. Les candidats manquent aussi, car les salaires notamment sont bas. Et l'âge moyen des enseignants est le plus élevé d'Europe, au point que certains professeurs ne devraient pas faire leur rentrée, car considérés comme personnes fragiles. Alina Rossini est professeure d'anglais à Turin.
La question des travailleurs fragiles est réelle. Nous travaillons, nous sommes des citoyens, des personnes. Mais dans un contexte plus sûr, avec des classes divisées, je pense que ce problème pourrait être, non pas résolu, mais limité.
Dans la région de Rome, un quart des écoles ne pourront pas rouvrir à temps plein, selon l'association des proviseurs.
En France, la rentrée scolaire avait lieu il y a 2 semaines et déjà les évaluations arrivent pour les élèves de CP, CE1 et 6e. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, les avait instaurées il y a 3 ans. Elles sont depuis très critiquées par un certain nombre d'enseignants et de responsables syndicaux. Cette année, après une crise sanitaire sans précédent, les inquiétudes se sont renforcées. Pour le premier degré, Guylaine David, la nouvelle secrétaire générale du SNUIPP, s'en explique.
On a toujours soutenu les enseignants qui n'ont pas fait passer les évaluations nationales face à la pression hiérarchique. Et puis on a toujours dit, vous prenez les exercices qui vous intéressent dans ces évaluations, mais vous n'êtes pas, voilà, vous faites à votre sauce, on va dire. On est toujours dans ce type de consigne comme les années précédentes. Comme on sait qu'on est dans une année un peu particulière cette année, on ne sait pas comment on va évaluer. Nous avons demandé l'annulation de ces évaluations qui ne sont pas adaptées, d'autant plus cette année parce que les enfants ont manqué un certain nombre de journées d'école. Ils ont des apprentissages en retard et ils ne peuvent pas être évalués de façon systématique. Les enseignants n'ont pas besoin de ça pour reprendre les apprentissages des élèves. Ils savent où vont en être les élèves, ils vont regarder leurs élèves, ils vont observer et ils vont mettre en place des solutions qui vont leur permettre d'évoluer et de rattraper tout ce retard.
Guylaine David, nouvelle secrétaire générale du SNUIPP, elle était interrogée pour France Culture par Hakim Kasmi. 7000 nouveaux cas de contamination de Covid-19 ont été recensés hier en France. C'est 3500 de moins que la veille, mais les données sont moins complètes le week-end. Sur les 7 derniers jours, sachez par ailleurs que près de 2500 patients ont été admis à l'hôpital à cause du nouveau coronavirus. C'était il y a 2 ans, quasiment jour pour jour. Le gouvernement lançait son plan pauvreté à 8 milliards d'euros sur 4 ans. Emmanuel Macron faisait même un discours devant un parterre d'associations réunies au Musée de l'Homme à Paris. 24 mois plus tard, en pleine crise économique et sanitaire, qu'en reste-t-il? Nous faisons le point ce matin avec Claire Chaudière.
Dans la foulée des petits déjeuners gratuits dans certaines écoles pour lutter contre la précarité alimentaire, le soutien aux crèches accueillant beaucoup d'enfants de familles défavorisées est arrivé il y a un peu moins d'un an. Vincent Mermet est directeur d'un centre social dans le 19e à Paris.
Augmentation de 8% à peu près de notre budget pour nos 3 crèches. C'est de l'argent qu'on a pu investir dans du matériel, de la formation, des intervenants, par exemple sur l'éveil culturel.
Quant à l'obligation de formation jusqu'à 18 ans pour les décrocheurs scolaires, le dispositif s'apprête à démarrer cet automne. Mais après des mois de concertation, le projet de revenu universel d'activité, fusion de plusieurs minima sociaux, est lui totalement à l'arrêt. L'exécutif décidera bientôt de le conserver ou de l'abandonner. Et le dernier remaniement ministériel a laissé un goût un peu amer aux associations. Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre.
On n'a plus un interlocuteur dédié au sein du gouvernement et on a vraisemblablement une baisse d'ambition. Enfin, l'éradication de la grande pauvreté, même si c'était pas en 5 ans, quand le président de la République en parlait il y a 2 ans. Écoutez, on n'y est pas. Regardez le plan de relance. La lutte contre la pauvreté, c'est le grand oublié. C'est comme si c'était pas dans le viseur.
Dernier pilier du plan pauvreté, le nouveau service public de l'insertion annoncé il y a 2 ans est lui encore en chantier.
Il aimait bousculer les codes en politique comme en médecine. L'ancien ministre et ex-député de droite Bernard Debré est décédé hier à l'âge de 75 ans. Grand urologue, il était le fils de Michel Debré, le frère jumeau de Jean-Louis Debré, également ministre, ancien président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel. Dans quelques heures, le Japon va désigner son nouveau premier ministre en remplacement de Shinzo Abe, démissionnaire pour des raisons de santé. C'est l'actuel porte-parole du gouvernement japonais qui tient la corde et fermement, car le parti l'a choisi et la ligne politique du pays ne devrait pas changer, Karine Nishimura.
Le plus important, c'est l'emploi et pour cela, il faut de la croissance. Le credo n'a pas changé. Grand avocat depuis 8 ans de la politique Abenomics de son mentor Shinzo Abe, Yoshihide Suga fait de l'économie sa priorité. La crise Covid-19 a en partie effacé les effets bénéfiques des mesures prises par Abe. Il n'y a plus de touristes étrangers au Japon et le manque à gagner est énorme. Relancer l'activité est donc le chantier numéro 1. S'y ajoute le rattrapage nécessaire dans l'informatisation des tâches, la crise sanitaire ayant révélé d'énormes lacunes. Puis la lutte contre la dénatalité et pour une meilleure place des femmes que n'a pas réussi à leur offrir Abe. Voilà pour les objectifs prioritaires, mais faut-il s'attendre à des réformes osées de la part de ce fils d'un cultivateur de fraises ? Réponse du politologue Yu Uchiyama de l'Université de Tokyo.
Suga risque de mener une politique très conservatrice, peut-être justement parce qu'il n'est pas l'héritier d'une famille de politiciens. Le passé a montré que les plus inventifs étaient des fils d'hommes politiques.
Continuité aussi, a priori, sur le front extérieur.
Sur le plan diplomatique, il a peu d'expérience, mais la voie du renforcement de l'alliance entre le Japon et les États-Unis ne changera pas.
Ne rien changer, ne pas remettre en cause le bilan Abe, garder les caciques à leur place, c'est précisément pour cela que Suga est choisi par son parti.
C'était Karine Nishimura au Japon pour France Culture. Quelques mots de la météo du jour en France métropolitaine et la chaleur s'installe sur le pays. Sous un grand soleil ce lundi, il fait dès ce matin 27 degrés à Bayonne, 25 à Nice, 22 à Bordeaux, 17 à Paris. Gare aux fortes chaleurs cet après-midi avec 30 à 37 degrés en général. Il est 6h40. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Dans votre journal des idées ce matin, vous évoquez les questions des Ouïghours à travers un sommet entre l'Union européenne et la Chine. Sommet qui est prévu aujourd'hui en visioconférence.
Oui, oui. Et il est vraisemblable, Clara, que l'évolution des mentalités européennes à l'égard de la Chine pourra s'exprimer à cette occasion et notamment, effectivement, sur la question des Ouïghours. Comme le rappelle Piotr Smolar dans Le Monde, le président Macron a fini par répondre le 6 septembre à la lettre de 30 députés sur les répressions organisées par les autorités chinoises. Il a évoqué les témoignages et les documents sur, je cite, les camps d'internement, les détentions massives, les disparitions, le travail forcé, les stérilisations forcées, la destruction du patrimoine ouïghour et en particulier les lieux de culte, la surveillance de la population. Le 28 juillet, devant les députés, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait appelé Pékin à accepter la venue d'une mission d'observateurs internationaux dans cette région du Xinjiang, conduite par la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michel Bachelet. Le député européen Raphaël Glucksmann, très engagé dans la défense des Ouïghours, souligne le combat mené au Parlement européen en faveur de sanctions ciblées contre les responsables de la répression au Xinjiang, mais déplore l'inaction du Conseil européen. Il existe un consensus franco-allemand pour ne pas froisser les dirigeants chinois, estime-t-il. Or, il semble que les choses commencent à bouger en Allemagne aussi. Cécile Boutelet et Thomas Wider observent que sous l'impulsion des milieux d'affaires, les principaux partis politiques révisent leur doctrine vis-à-vis de Pékin. Un changement d'autant plus marquant que depuis 2017, la Chine est le premier partenaire commercial de l'Allemagne devant la France et les États-Unis. Il est vrai qu'en janvier dernier, un rapport publié par la Fédération des industriels allemands définissait la Chine comme un concurrent systémique et plus vraiment comme un partenaire, dénonçant notamment le modèle interventionniste chinois en termes de distorsion de marché et de limitation de la concurrence. Sur le front politique, on peut souligner les récents débats sur l'autorisation accordée à Huawei de participer au développement de la 5G en Allemagne pour des raisons de sécurité et de souveraineté. Dépendre de la 5G chinoise n'est-il pas toute proportion gardée, l'équivalent de la dépendance à l'égard du gaz russe, demande Dominique Moisy dans Les Échos, évoquant les pays du sud, du centre et de l'est de l'Europe qui ont pu être séduits par l'idée de jouer égoïstement la carte chinoise. Il les invite à comprendre que l'ambition de la Chine n'est pas de les enrichir, mais de nous diviser pour mieux nous contrôler, sinon nous dominer demain. À cet égard, la Cour des comptes de l'Europe vient de publier un rapport sur l'offensive chinoise en matière d'investissement. Or, déplore-t-elle, de nombreux États membres ont rechigné à lui communiquer leurs données. Il y aurait donc urgence sur ce volet économique également à adopter une stratégie commune dans le cadre notamment de la négociation en cours entre Chinois et Européens sur la protection des investissements qui inclut le respect de la propriété intellectuelle, la fin des transferts de technologies imposés aux sociétés étrangères et des subventions aux entreprises publiques chinoises. Par ailleurs, la Chambre de commerce européenne en Chine a présenté le 10 septembre à Pékin son rapport annuel qui fait état d'une exaspération croissante au sein des 1700 entreprises membres et dénonce les nouveaux obstacles apparus après l'épidémie. L'impossibilité pour les expatriés européens de revenir en Chine après la fermeture des frontières a ajouté aux frictions déjà suscitées par le manque persistant de réciprocité en termes de commerce et d'investissement. Frédéric Schaeffer précise sur le site leséchos.fr que les entreprises étrangères en Chine se trouvent sur un champ de mine politique en raison des relations tendues de Pékin avec Bruxelles et Washington, et que les entreprises européennes en particulier craignent les représailles de Pékin en cas de tensions diplomatiques. Selon le rapport, Pékin devrait dépolitiser l'environnement des affaires et désamorcer la diplomatie, je cite, des loups guerriers. Courrier International en donne un bon exemple avec les récents affrontements frontaliers entre la Chine et l'Inde dans une zone névralgique et disputée de l'Himalaya aux confins du Tibet, du Xinjiang ouïghour et du Pakistan, le Ladakh. Dans les patrouilles indiennes qui arpentent la frontière se trouvent de nombreux combattants tibétains. Pour le Global Times, l'organe officiel chinois, l'Inde joue la carte du Tibet en tablant sur la connivence avec les Tibétains exilés. Cela se retournera contre elle, car la puissance économique et la force militaire de la Chine sont bien supérieures à celles de l'Inde. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Avec vous Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Avec au sommaire aujourd'hui cette question, les Européens oseront-ils braver la Chine sur le dossier taïwanais?
Oui, on verra si le sujet est évoqué aujourd'hui lors du sommet entre l'Union Européenne et Pékin, si le président du Conseil Charles Michel ou la présidente de la Commission Ursula von der Leyen ou encore Angela Merkel profiteront des circonstances pour évoquer Taïwan. Circonstances dont vous avez parlé à l'instant Jacques Munier, que ce soit les mensonges du régime de Xi Jinping au tout début de l'épidémie de coronavirus ou la guerre commerciale sino-américaine qui s'envenime, l'image de la Chine à l'étranger se dégrade quand Taïwan, à l'inverse, peut se vanter d'une gestion exemplaire du coronavirus. Pékin qui se permet de plus en plus clairement par ailleurs des provocations militaires envers Taïwan en envoyant des bombardiers dans l'espace aérien de ce qu'elle considère comme une de ses provinces. Comment Européens et Américains d'ailleurs se saisissent-ils des appels de Taïwan à se montrer solidaires? Il est 12h46 à Taipei où vous êtes, Stéphane Korkuff, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes sinologue et maître de conférence à Sciences Po Lyon. Puisque c'est le prétexte du récent rapprochement entre Taïwan et l'Union Européenne, un mot d'abord sur le coronavirus à Taïwan, puisque vous y êtes par ailleurs. C'est complètement terminé?
On a de nouveaux cas de temps en temps, très peu nombreux. On est à 498 cas aujourd'hui à Taïwan depuis le début de l'épidémie. C'est vraiment rien du tout. Il y a eu 7 morts et il y a quelques dizaines de personnes encore hospitalisées.
Avec des mesures mises en place dès le début de la crise sanitaire, pas de confinement généralisé, mais des contrôles stricts aux frontières et des mesures de quarantaine notamment. Une gestion exemplaire de la crise qui a valu à Taïwan en août la visite du secrétaire d'État américain à la santé, Alex Azar. Taïwan a aussi reçu début septembre le président du Sénat tchèque. Alors pas besoin cette fois d'invoquer la question du coronavirus, il venait en ami, le président du Sénat tchèque. Est-ce qu'il faut d'abord, Stéphane Korkuff, lire ces visites comme un rapprochement de Taïwan ou un éloignement de la Chine? Quelle lecture à votre faveur?
Alors, je pense que c'est les deux à la fois, pour une raison toute simple, que la Chine va poser les choses comme ça, c'est que tout rapprochement avec Taïwan crée des tensions avec elle. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a comme stratégie de s'éloigner de la Chine? Je ne pense pas forcément, mais je pense que toute personne, tout homme politique, tout parti, proposant une loi, faisant une visite, ou faisant un commentaire en faveur de Taïwan, sait bien que ça va impacter la politique chinoise de la Chine envers son pays. Les deux sont liés.
La visite du président du Sénat tchèque, c'est vrai que ça a fait pas mal parler, parce que la République tchèque est un pays qui devait, comme d'autres pays d'Europe de l'Est, recevoir d'importants investissements chinois dans le cadre des nouvelles routes de la soie. C'est quand même un signe fort qu'a fait le président tchèque en venant à Taïwan.
Alors, c'est le président du Parlement, parce que le président de la République tchèque, lui, est pro-chinois. C'est d'ailleurs deux personnes qui s'opposent beaucoup sur le dossier taïwanais. Mais effectivement, donc c'est pas toute la République tchèque qui pense ainsi, mais on voit une évolution majeure. Ce qu'il faut peut-être rappeler sur le dossier tchèque, c'est que la République tchèque et Taïwan ont des tailles assez similaires, même si la population tchèque est infiniment moins nombreuse que celle de Taïwan, qui a 23 millions d'habitants. La taille du pays fait que les Tchèques n'ont pas grand chose à perdre quand les Chinois leur font des menaces de rétorsion, notamment sur leurs voitures, etc.
C'est ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères chinois en disant « vous allez payer au prix fort votre comportement à courte vue et vos spéculations politiques ». Et ce qui est intéressant, c'est la réaction des autres pays de l'Union européenne qui se sont montrés solidaires de la République tchèque,
voilà.
Enfin de ce président,
oui,
du Sénat.
Important. De ce ce point de vue-là, on a franchi un cran à partir du moment où les Européens disent aux Chinois, vous ne pouvez pas attaquer de la sorte un pays démocratique européen sans que nous considérions comme attaqué nous-mêmes en tant qu'entité européenne. Donc ça, c'est vraiment, sur un plan conceptuel, face à la Chine, quelque chose de nouveau.
En Italie aussi, Italie qui bénéficie quand même de beaucoup d'argent, qui a accepté l'argent de la Chine pour les nouvelles routes de la soie lors de la tournée du ministre des Affaires étrangères Wang Yi en Europe fin août. Même l'Italie y est allée de son discours sur Hong Kong, par exemple.
Alors exactement, pendant la conférence de presse des deux ministres des Affaires étrangères qui apparaissaient relativement peu communicants l'un avec l'autre, je dirais, le ministre italien des Affaires étrangères a évoqué, sans visiblement avoir prévenu Wang Yi, le ministre chinois, la question de Hong Kong en exprimant son soutien aux mouvements sociaux et son inquiétude par rapport au passage tout récent de cette loi de sécurité nationale sur Hong Kong. Et Wang Yi, devant la caméra, a été saisi d'effroi et c'est l'une image symbolique de l'échec à peu près complet, je pense, de sa visite en Europe.
Alors sur Taïwan, la France, par exemple, a annoncé fin août que serait ouvert bientôt un deuxième bureau de représentation de Taïwan à Aix-en-Provence. Et il y a comme ça certains signaux, certains gestes diplomatiques en faveur de Taïwan, mais aussi des signaux militaires qui indiquent un rapprochement, comme ce contrat d'armement que la France a signé avec Taïwan. Mais Jean-Yves Le Drian dit que ce n'est pas un contrat d'armement à la Chine.
Alors, il a été très fin et il connaît bien le dossier chinois au point d'avoir trouvé moyen de reprendre les techniques rhétoriques chinoises pour leur fermer le caquet, j'ai envie de dire, en leur disant il ne s'agit pas d'un nouveau contrat d'armement, il s'agit d'une mise à jour d'un dispositif de défense d'un vieux contrat qui date de 30 ans et qui est celui des frégates Lafayette, hein, bien sûr. Il s'agissait pour la France de vendre des nouveaux systèmes de lance-leurre. Il s'agit effectivement d'un nouveau contrat, mais il a joué sur le fait que c'était un upgrade pour des bateaux existants et donc il a conclu aux Chinois en disant la crise du Covid dans le monde étant assez importante, c'est pas le moment de perdre notre temps sur des peccadilles. Enfin, c'est pas ce mot, mais c'est l'idée. Et là vraiment, on a vu que la Chine a été relativement modérée dans sa critique de ce contrat d'armes, alors que un contrat d'armement pour Taïwan par un pays occidental, c'est typiquement le sujet le plus sensible qu'on puisse imaginer.
Voilà, l'idée est de ne pas franchir la ligne rouge qui serait de reconnaître la souveraineté de Taïwan. Il faut quand même rappeler, Stéphane Corcuff, que Taïwan est très isolé de toute façon sur la scène diplomatique, avec seulement 15 pays, 15 États qui la reconnaissent comme telle. On a vu à la fin de l'été un navire de l'armée américaine croisé dans le détroit de Taïwan comme un signe de soutien à l'île avec cet accord de 79. Le Taiwan Relations Act qui engage les États-Unis à épauler Taïwan en cas d'invasion chinoise. Quels sont aujourd'hui les indices qui poussent certains experts, notamment américains, à invoquer une possible prochaine invasion de Taïwan par l'armée chinoise ?
Alors les indices, c'est que le discours chinois, qui n'est pas nouveau, hein, sur le nécessaire retour de Taïwan sur la souveraineté chinoise, depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, commence à être beaucoup plus pressant. Et cet été, depuis on va dire la crise du Covid, hein, depuis janvier, les Chinois font passer semaine après semaine, mois après mois, des bombardiers, des avions de reconnaissance, des chasseurs qui franchissent la ligne tacite médiane du détroit de Taïwan. Et tout cela, je vais le dire très simplement comme je le pense, pour moi c'est en partie du discours de la démonstration de force. Je ne suis pas du tout persuadé que la Chine veuille derrière la guerre, parce que il y a beaucoup de raisons de penser qu'une guerre sur Taïwan serait très très dangereuse pour la Chine elle-même, et qu'il est loin d'être établi qu'elle puisse la gagner, ou en tout cas la gagner dans un temps suffisant qui permette de conclure à une vraie victoire. Alors, tout ça pour dire que s'il y a des tensions aujourd'hui, c'est sans doute des raisons qui sont ailleurs et qui ont à voir avec, disons, la situation, la politique chinoise où Xi Jinping est assoiffé, absolument assoiffé de confirmation et de renforcement de son pouvoir sur le pays et sur l'armée. Il a probablement donné avant la conférence de Beidaihe cet été du Parti communiste des assurances à l'armée chinoise qu'il conduirait des essais militaires dans le Détroit et qu'il avancerait sur ce dossier-là afin qu'il soit absolument sûr de ne pas être mis en minorité au congrès de Beidaihe. Donc c'est un peu des raisons de politique intérieure aussi. Je ne suis pas certain que on soit vraiment au bord de la guerre. Je ne le pense pas du tout non plus. Mais il y a un risque. C'est que, Taïwan évite depuis toujours de donner à la Chine un casus belli. Et donc, c'est pas du côté de Taïwan qu'on va trouver une raison de commencer la guerre. Mais on pourrait très bien imaginer qu'à un moment, il y ait un accrochage inattendu, deux avions qui se foncent l'un sur l'autre. Enfin, on l'a vu en 2001 avec l'affaire de l'avion espion américain. Ça peut arriver et c'est la grande inquiétude du moment.
Qu'est-ce que les câbles diplomatiques révélés début septembre par l'administration américaine et qui datent de l'époque de Reagan ont révélé ou précisé sur cette obligation d'assistance promis par les États-Unis? C'est un document qui était classifié. Pourquoi l'avoir rendu public maintenant? Est-ce que vous voyez comme ça des signaux de part et d'autre de pays occidentaux qui disent à Pékin on protégera Taïwan s'il le faut?
Alors, en fait, en 82, Reagan avait donné ce qu'on appelle, dans le jargon des spécialistes de la géopolitique chinoise et taïwanaise, les six assurances. Six assurances à Taïwan, après donc la rupture des relations diplomatiques par son prédécesseur Carter, et la demande des Chinois de stopper les ventes d'armes à Taïwan. Donc ces six assurances étaient secrètes. On les connaissait pas toutes exactement, ou tout le monde ne les connaissait pas toutes, et elles ont été donc révélées récemment. Et pour résumer, en gros, on peut dire que les Américains, Reagan a promis donc aux Taïwanais qu'ils ne changeraient pas le Taiwan Relations Act qui venait d'être voté, qu'ils ne céderaient pas à la pression des Chinois pour arrêter ou diminuer les ventes d'armes.
Oui, on arrive à la fin, pardon, je suis désolée de vous presser.
Oui, je comprends.
Et donc c'était quand même une autre époque, il s'agissait de rassurer Taïwan qui s'inquiétait de voir les États-Unis faire de la Chine un partenaire commercial plus en plus présent, mais par ailleurs la Chine n'était pas la puissance militaire qu'elle est devenue aujourd'hui. Veuillez m'excuser de vous avoir coupé si vite, Stéphane Korkuff, je vous souhaite une bonne journée, merci d'avoir été avec nous en direct de Taïwan.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
Observation, hypothèse, conclusion sur France Culture, la méthode scientifique de Nicolas Martin.
Les néonicotinoïdes viennent d'être réautorisés en France, mais pourquoi sont-ils si dangereux? La science s'est-elle vendue au secteur privé? Comment se sont formées les toutes premières galaxies? Les ondes térahertz sont-elles les ondes du futur? Et peut-on décemment dire qu'Isaac Asimov est le père de la science-fiction moderne? Autant de questions auxquelles nous répondrons cette semaine méthodiquement.
La méthode scientifique, du lundi au vendredi à 16h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture. Bonjour Guillaume Erner.
Bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Votre humeur du jour ce matin, l'historien Dominique Khalifa s'est donné la mort ce samedi.
Et oui, et cela nous a attristés. Dominique Khalifa a été un invité régulier de France Culture. On l'entendait bien souvent sur notre antenne. Son intelligence, son érudition, son sens de la pédagogie faisaient merveille. Il y a peu de temps, il avait été invité des matins. Je lui avais demandé de se lever plutôt que d'habitude pour nous parler des noms d'époque, puisque c'était le thème de son dernier livre. À la faveur de cet échange, j'avais appris que l'exercice qui consiste donc à nommer les périodes historiques s'appelait la chrononymie, un chrononyme désignant donc le nom d'une époque, qu'il s'agisse du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Et justement, j'avais voulu inviter Dominique Khalifa pour savoir si le coronavirus allait donner son nom à une période historique à la manière de la peste noire qui a marqué le mi-temps du XIVe siècle. Allait-il y avoir une période historique baptisée de la sorte? Dominique Khalifa s'était particulièrement penché sur la belle époque, ces années 30, Julie, surnommée de la sorte. Et l'un des enseignements de Dominique Khalifa, c'est que le terme avait traversé le siècle, le terme de belle époque, mais il avait changé de sens. Il avait notamment connu une inflexion dans les années 50, puis en 1970 et c'est ainsi qu'aujourd'hui, plus personne n'oserait évoquer la belle époque au sens premier du terme. C'est que tout a une histoire, y compris le nom des périodes historiques, lesquelles évoluent en prenant un sens puis un autre. La belle époque, bien sûr, est probablement celle que nous traversons aujourd'hui, que l'on est quand même tenté parfois, il faut le dire, d'appeler tout simplement la moche époque. La chrononymie retiendra-t-elle une époque du Covid ? Espérons en tout cas que la période soit la plus courte possible. Que l'on n'en vienne pas à parler d'une ère du Covid qui ressemblerait un peu à l'ère du vide, une période où beaucoup de choses que nous aimons, des concerts ou voyages, en passant par le fait d'avoir des courses par exemple, et bien une période où tout ceci n'aurait plus lieu. Au moins, ne vivons-nous pas une période sans nom, mal nommée, pour reprendre les termes de Dominique Khalifa, une période condamnée à la relégation historique. On s'en souviendra de cette année 2020, et c'est bien cela le problème.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Gouverner face à l'épidémie avec les politiques, avec les scientifiques également. On en parle aux environs de 7h40 avec Jérôme Fourquet, il est analyste politique, directeur du département Opinion de l'IFOP et il a notamment publié L'Archipel français aux éditions du Seuil. Excellent réveil, il est 7h sur France Culture.